la plus rebelle des radios, et c'est l'heure du Canu Info du vendredi, sans doute l'un des meilleurs Canu Info de toute l'histoire du Canu Info de la radio. Alors, on va commencer avec de nombreux reportages locaux. On a envoyé nos reporters, notamment à Mézieux, qui ont suivi la grève des postiers. Aujourd'hui, c'est le 10e jour de grève pour les postiers de Mézieux. On est également allé à la Guillotière rencontrer des manifestants qui manifestaient pour soutenir l'un de leurs camarades syndicalistes de la CGT qui est menacé de licenciement au McDo. On est également allé place Jean Massé voir un rassemblement pour soutenir les prostituées de Lyon menacées notamment par un nouveau projet de loi qui consiste à vouloir les éloigner et donc elles sont d'autant plus menacées ces prochains mois. On parlera également de la condamnation de syndicalistes à Lyon 2 qui ont été exclus, et on terminera sur une nouvelle toute fraîche, l'acquittement par le tribunal d'Istanbul de Pinar Selek qui était tout à l'heure dans le premier arrondissement, et on a envoyé là-bas un de nos émissaires. On changera ensuite d'échelon pour parler d'informations nationales. On parlera des conditions de travail chez Amazon, vendeur de CD, livres, DVD et autres réjouissances.
Et même réfrigérateur.
Et même réfrigérateur et machine à laver sans doute.
Et bouffe pour chat aussi.
Bouffe pour chat.
Oui.
Amazon.
Pour de vrai.
Étonnant. Et on parlera également de la nouvelle loi anti-squat préparée par la maire de Calais et également sénatrice UMP, Natacha Bouchard, une chic personne. On terminera enfin par le durcissement de la politique de l'immigration dans le pays voisin qui est l'Australie, et on finira sur des brèves internationales, notamment sur le résultat du procès des militants pour le NOTAV, résultat qui a été annoncé hier ou avant-hier. Voilà, on terminera en réalité sur un court agenda. Voilà, donc tout de suite un reportage sur les gréviste de la Poste à Mézieux, dans l'agglomération lyonnaise.
Et ouais, c'est parti.
Alors,
ça va
bonjour,
partir.
Donc tu t'appelles ?
Moi c'est Fred Poncet.
Et tu
travailles ? Moi je suis représentant départemental du syndicat Sud Poste, Rhône 1.
Ok. Et alors, du coup, pour expliquer les origines de la grève, les revendications à la Poste
de mes yeux. Donc les origines là, en fait la Poste a annoncé il y a à peu près un mois et demi la fermeture du centre distribution donc des facteurs de mes yeux pour une délocalisation sur plusieurs sites, à savoir le site de Vent-Velin Distribution, le site de Vent-Velin Colis Poste, c'est-à-dire qu'ils vont séparer l'activité colis du courrier. Et donc ils veulent envoyer tous les facteurs sur d'autres sites. Et ce projet prévoit aussi la distribution du courrier l'après-midi, à savoir que le facteur en fait ne classe plus sa tournée, il part en distribution 7 heures sur son vélo, matin et après-midi. Donc les facteurs se sont mis, ont tenté de discuter d'abord dans un premier temps avec la direction pour leur dire que de toute façon cette délocalisation elle était prématurée, puisqu'on leur annonce ça pour avril. Donc ils leur ont fait savoir, après ils leur ont dit que par rapport aux tournées mix, au travail de facteur, que ça remettait en cause aussi le travail du facteur et que ça allait à l'encontre du service public. Et la Poste, forcément toujours enclin à vouloir négocier dans leur sens, à refuser toute proposition, et du coup ils se sont mis en grève à partir du mardi 9 décembre.
Combien de personnes en grève environ ?
Là on est à 90% du personnel, savoir que contrairement à d'autres mouvements, le mouvement a pris de l'ampleur, c'est-à-dire qu'il y a des agents qui étaient non grévistes au début qui ont pris le mouvement après. Donc du coup il y a une bonne base et qui lâche pas. Du coup les agents sont très conscients des enjeux qu'il peut y avoir et du rapport de force qui s'est installé. Et au point où ils en sont, enfin c'est ce qu'on fait comprendre à la Poste aussi, ils n'en reviendront pas en arrière et de toute façon ils lâcheront pas le morceau. Donc maintenant c'est à la Poste de bouger, quoi.
Donc la grève qui tient depuis combien de jours et dans quel secteur ?
Alors là ça fait 9 jours, donc ça concerne les communes de Mézieux, Pusignan, Jonce et Jonage.
Alors donc tu disais qu'il y avait des personnes qui étaient non syndiquées dans le mouvement de grève. Pour rappel, il n'y a pas besoin d'être syndiqué pour se mettre en grève. Alors est-ce que tu peux nous dire quels syndicats sont impliqués ? C'est quoi la part de personnes non syndiquées, syndiquées dans ce mouvement ?
Alors il faut savoir que actuellement il y a 90% de grévistes, et ce qui est assez inédit et moi je dirais plutôt encourageant pour nous, on va dire, syndicalistes qui, on va dire, plutôt de lutte, c'est que bah, là, il y a beaucoup d'agents qui sont non syndiqués, on va dire que la quasi-majorité, quoi. Et en fait, c'est vraiment eux qui ont décidé du mouvement et qui ont fait appel à nous, en Sud, et d'autres syndicats, mais bon, on s'est retrouvé tout seul au final parce que les autres syndicats n'ont pas déposé de préavis, justement pour légalement pouvoir exercer leur droit de grève. Et donc, pour exercer le droit de grève, il faut un préavis d'une organisation syndicale qui est représentative dans l'entreprise. Donc du coup, c'est comme ça que ça s'est passé. C'est pas des on n'a pas de militants sur place qui ont enclenché le mouvement. C'est-à-dire que c'est vraiment eux qui sont réunis, qui ont décidé, qui ont pris en main le mouvement. Après, par rapport aux autres syndicats, ben, y en a qui n'ont pas suivi, il y en a qui par voie de presse ont fait savoir, voilà, que la grève ne servait à rien. Enfin, essayer de démobiliser les gens.
Quel syndicat, voilà, par exemple?
Donc ça, c'est le syndicat Force Ouvrière. Donc on était en plus là en fin d'année, c'était une période électorale, donc les autres syndicats étaient plus sur les élections. Pendant qu'ils allaient payer des cafés pour appeler les gens à voter pour eux, ben nous, on était sur mes yeux pour gérer le conflit.
Et donc on a pu voir aussi dans les communiqués des méthodes de la direction. La question, c'est comment la direction essaye de mettre des bâtons dans les roues à ce mouvement de grève?
Alors ben, c'est les méthodes habituelles. Alors déjà, bon ben, premier point, le plus important pour la Poste, c'est de rendre la grève invisible. Donc ça veut dire qu'en gros, c'est remplacer les grévistes. Donc ils utilisent toutes les méthodes, savoir embauche d'intérimaires, ce qui est légal. Donc là, on a fait intervenir l'inspection du travail qui va faire des contrôles. Plus grave par contre, c'est ça, on peut rien faire là-dessus, c'est qu'ils déploient toute une horde de cadres sup. Donc on a même vu des directeurs d'établissement qui venaient faire de la distribution. Donc ils partent en binôme pour distribuer des colis et voilà, donc ils les détachent d'autres bureaux, mais ce qui crée donc d'autres problèmes sur d'autres bureaux, puisqu'on enlève du personnel d'un bureau pour venir remplacer les grévistes de mes yeux. Et on humilie un petit peu aussi les gens, puisque en gros on leur laisse pas le choix et on voit des cas de personnes qui sont complètement en état de dépression au niveau des cadres. Mais à un moment, je pense que voilà, quand il y a un personnel qui est en lutte, c'est tout le personnel qui est concerné, et aussi bien cadre ou non cadre. Et à un moment, il faut se poser la question de savoir nous ce qu'on veut, si on préfère subir ou agir, quoi. Voilà.
Et donc pendant cette grève là, au quotidien, comment la solidarité elle s'organise?
Alors bah, la solidarité, déjà, bon bah c'est le plus important, c'est celle des clients, enfin usagers de la Poste. Donc à savoir que ben déjà faut pas se couper de ces gens là parce que forcément ça peut être très mal perçu si on fait grève et qu'on communique pas derrière. Donc les agents grévistes tous les jours vont à la rencontre des usagers. Il y a eu beaucoup, surtout sur la première semaine, pour informer du mouvement. Donc il y a eu des pétitions contournées, il y a eu des motions de soutien des entreprises aussi qui sont très attachées au service de leurs facteurs sur la zone industrielle de Mézieux. Et après bah, c'est la solidarité aussi qui s'enclenche bah, là surtout sur la deuxième semaine qui peut être plus financière. Parce qu'il y a quand même 28 grévistes et bon ben contrairement à ce que pensent beaucoup de gens, peut-être pas sur Radio Canu mais sur d'autres radios, les grévistes ne sont pas payés, hein. Voilà, ils perdent leur 30e de salaire et que forcément bah voilà, la Poste fait durer ce conflit et est mise sur cette usure là, parce qu'il faut savoir que le facteur, quand même, on a des salaires qui varient entre 1200 et 1500 euros, donc c'est pas des gros salaires, et que ça tire vite sur la corde. Donc les solidarités financières, c'est quelque chose qui existe aussi. Et voilà, bon bah après ce qui est le plus important aussi, c'est quand même voilà, le soutien des clients, des usagers, et puis d'autres médias aussi, comme Radio Canu par exemple, qui peut venir s'intéresser et médiatiser le mouvement, parce que le talon d'Achille de la Poste aussi, c'est son image de marque, et je pense qu'elle en prend un sacré coup, parce qu'ils utilisent des méthodes qui sont lamentables, quoi.
Donc on parlait dans les piquets de caisses de grève, nous, auditeurs, auditrices, comment on pourrait faire pour soutenir concrètement les grévistes?
Eh ben concrètement les grévistes, bah si vous voulez les soutenir, bah c'est déjà soit de passer sur le piquet de grève le matin et soit de leur apporter quelque chose, une solidarité financière ou même manger ou n'importe quoi, ou même un petit soutien moral, on prend tout quoi. Et après bah pour les dons, pour certaines caisses de grève, il y a le syndicat aussi, syndicat Sud, où on peut nous contacter via internet sur le blog, et il y a une page Facebook aussi spécialement dédiée à ce conflit. Voilà. Donc on utilise aussi pas mal les réseaux sociaux pour mettre en œuvre tout ça quoi.
Donc voilà, si vous voulez passer aussi au centre de la Poste, c'est rue Lucien Buisson, donc à mes yeux, 18 bits, rue Lucien Buisson, à mes yeux. Donc on va également parler des restructurations de la Poste au niveau national, beaucoup de réformes, beaucoup de privatisations. Concrètement, comment ça évolue au niveau national ?
Bah, au niveau national, enfin moi je vais parler plus de la branche courrier là. Donc actuellement, ben il y a une stratégie vraiment de, on va dire, de détruire le métier de facteur et une productivité vraiment au maximum. À savoir que le gros projet actuellement de la Poste, ils se battent aussi là-dessus, c'est que en fait le facteur habituellement travaille du matin et a le droit à ses 20 minutes de pause payée. Voilà, c'est le code du travail. Et maintenant, en fait, ce qu'ils veulent faire, c'est gratter là-dessus sur ces 20 minutes de pause. Donc maintenant, ce qu'ils veulent faire, c'est des distributions matin après-midi avec des pauses méridiennes qui ne sont pas payés. Et par exemple, ce style d'estimation, s'ils arrivent à passer ça au niveau national, leur objectif c'est de faire 50% des tournées facteurs au niveau national sur des pauses méridiennes, donc de gratter 20 minutes de temps de travail sur tous les facteurs, ça représente à peu près 1500 suppressions d'emplois. Donc c'est tous des petits trucs comme ça qu'ils essayent de faire passer petit à petit, où ils fixent des objectifs, des caps, et du coup, ben petit à petit, ça passe. Et du coup, ils font des bénéfices comme ça. Après, c'est tout aussi les remplacements des parents en retraite qui sont pas remplacés. Et la pire stratégie, je pense, aussi qu'ils utilisent, c'est qu'ils ont une com dévastatrice. Ça veut dire qu'en gros, on fait comprendre que l'entreprise va changer, qu'il va falloir s'adapter, que de toute façon, maintenant, il va falloir... voilà, si tu veux garder ton travail, faudra faire tout et n'importe quoi. Et en gros, il y a beaucoup de gens qui, du coup, quittent la Poste par dégoût. Et ces personnes-là, bah, sont pas remplacées. Donc, c'est comme pour l'instant, on n'est pas dans des cadres de licenciement, mais c'est des licenciements déguisés. En gros, on dégoûte le personnel de son travail, il demande à partir, enfin il démissionne et on le remplace pas. Voilà. Mais je pense que, enfin, la stratégie de la Poste, c'est aussi de préparer la privatisation, parce qu'aujourd'hui une grosse entreprise, quoi qu'on en dise, voilà, c'est dans l'air du temps, c'est que si une entreprise elle a pas son plan social, c'est une entreprise qui n'intéresse personne. Voilà, au niveau des actionnaires. Donc je pense que c'est aussi ça la stratégie de la Poste, c'est d'ouvrir bientôt aux actionnaires privés et montrer qu'ils sont rentables, ils sont capables de casser du personnel. Voilà, tout simplement.
Eh bien, merci beaucoup. Un petit mot pour la fin ?
Eh ben, j'espère qu'il y aura un bon dénouement. En tout cas, moi je suis bien content. Enfin, nous, au niveau de Syndicat Sud, on est très fiers de ce que font les agents et ça donne espoir pour la suite. Parce que bon, c'est vrai que des luttes cette année, en tout cas à la Poste, il n'y en a pas beaucoup. Il faut savoir que. Si on parle de l'éducation nationale aussi, où il y a de moins en moins de mouvements, il y a de moins en moins de mouvements aussi à la Poste, je pense que si deux corps de métier, il y a de moins en moins de luttes, je pense qu'on va pas pouvoir faire grand-chose ces prochaines années. Donc je pense que ces luttes-là, c'est un exemple, c'est exemplaire, et il faut qu'ils iront au bout et ils vont arracher quelque chose de bien qui peut justement motiver les autres bureaux après à converger des luttes et pouvoir faire quelque chose de la personne.
Et voilà le reportage sur la Poste de Mézieux. Alors maintenant, on va encore repartir au bout du monde, au bout de Lyon, puisqu'on va rentrer dans l'agglomération et partir pour un petit reportage sur la répression syndicale au McDo de la Guillotière.
Tu me passes une pâte à tous, s'il te plaît.
Et qui est sous le coup de licenciement, parce qu'il a témoigné, en fait à ma faveur.
Ta faveur, ok.
Et le motif, en fait, on le saura ce soir parce que...
C'est là où il y a l'entretien.
Oui, il y a l'entretien, l'entretien à 18h30.
Ouais.
Mais entre-temps, on a essayé, en fait, on s'est mis d'accord pour nos camarades de venir lui mettre la pression pour lui montrer qu'un membre de la CGT qui est attaqué, c'est l'ensemble, en fait,
c'est toute
l'équipe qui est attaquée. Et ça fait un petit moment que ce monsieur, en fait, il est sur les viseurs. Franchisé.
Parce que là, du coup, c'est une franchise, c'est ça, celui-là de McDo. Donc, il y a un gars qui gère tout ça, qui a un peu dessus.
Ouais, il y a un gérant, en fait, qui s'appelle Fabrice Pariente,
ouais.
Qui gère 4 McDo.
D'accord.
Ici, c'est-à-dire Gabriel Perry, Sans Souci, Vénitieux et Grange Blanche. D'accord. Donc, là, c'est 4 McDo.
Ouais.
Ce qui fait qu'il les a achetés, parce que moi, je suis embauché en 2009. Quand je suis arrivé, il était toujours là. Mais avant, il y avait un autre franchisé. Il s'appelle Alain Jacob, qui était mieux avec les salariés.
Conciliant, on va dire.
Ouais, conciliant, il donnait tout ce qu'il voulait, les salariés. Quand il y a un problème, il dit, bon voilà, on négocie. Voilà. Mais lui, quand il est arrivé, sa première politique, c'est de liquider l'ancienne équipe.
Pour éviter ça, c'est la solidarité, pour avoir des nouveaux gens qui puissent mater un petit peu. Voilà.
Ouais, voilà. Et ça, c'est la politique McDonald's. C'est-à-dire, il ne faut pas que les salaires restent au-delà de 6 mois.
D'accord, pour faire tourner, pour pas qu'il y ait de mobilisation,
ouais,
autre,
y a des mobilisations,
travail,
ouais.
Le salaire et compagnie.
Il y a aussi le fait qu'à partir de 3 mois, 6 mois, tu commences à avoir des acquis. C'est-à-dire tu commences à avoir des primes et tout ça. Donc, pour lui, il faut éviter cela. Et il nous a dit à plusieurs reprises dans des réunions du comité d'entreprise que ça me fait mal de voir quelqu'un qui est au-delà de 6 mois. Ne parlons pas en fait des gens qui sont là, ça fait déjà
un peu plus
de 10 ans.
Ouais.
Donc j'en ai déjà vu des directeurs, à peu près 5 directeurs qui ont été liquidés, des pères de famille, liquidés. Et ça me fait vraiment de la peine. Ça me fait vraiment de la peine de voir en fait des pères de famille qui sont liquidés comme ça.
Ouais, bien sûr.
Et en fait, Monsieur Rachid, il est parmi en fait les plus anciens du McDo.
D'accord.
Et qui touche en fait un peu plus. Il touche un peu plus du SMIC.
D'accord.
À peu près 1400, 1500 euros.
D'accord.
Alors que son travail, il peut être réalisé par un autre manager,
ouais,
avec le SMIC 1100 euros.
Ouais, du coup, c'est but de faire des économies.
Ouais, des économies. Donc, si on le liquide aujourd'hui,
ouais,
on va donner le travail à quelqu'un d'autre qui va toucher 1100 euros et ils vont réaliser 300 euros, voire un peu plus de bénéfices.
Pendant quelques temps avant de le revirer,
ouais,
etc.
Ouais, voilà. Donc, et tout ça. Donc, ce qui fait que pour lui, ça fait déjà un petit moment, ils l'ont mis la pression,
ouais,
de démissionner.
D'accord, ok.
Et lui, il a tenu parce que je lui ai dit qu'il ne démissionne pas sur vous.
Bah non,
mais
ouais.
Donc, j'étais toujours derrière, mais aussi ils ont profité parce que moi, aujourd'hui, je suis en maladie, donc ils ont profité en fait de mon.
Pour essayer de mettre, ouais, un peu la pression, ouais,
pour lui
pas
mettre
là,
ouais, la pression, voilà, quand je ne suis pas là. Donc, après, ils l'ont convoqué. Et ces derniers temps, il a eu des lettres, aussi des entretiens formels,
ouais,
pour sa hiérarchie, pour essayer de le pousser à la sortie.
D'accord.
Ils ont proposé de le miter dans un autre McDo,
ouais,
pour avoir en fait le champ libre. D'accord. Mais lui, il a refusé. Parce que la convention ne le permet pas en fait à quelqu'un
de mobilité comme ça.
De mobilité comme, d'accord, ça. Donc, et là, comme ils se sont rendus compte que lui, il se prépare parce qu'il savait qu'il allait quitter l'entreprise. Donc ils se préparent, donc ils ont décidé de passer à la vitesse supérieure.
D'ailleurs, pour accélérer un peu.
Ouais, pour accélérer un peu les choses. Mais avant cela, quand il a témoigné, parce que moi j'ai le témoignage de la direction qui disait que ce mec-là, ce petit black-là, il nous gêne là, il faut qu'on
forcément
le liquide.
Oui.
Parce que c'est pas le petit noir là qui va venir en fait nous apprendre comment utiliser le code du travail dans les pays de Gaulois. Quand il a témoigné, comme vous savez très bien que la vengeance est un plat qui se mange pas.
Ils prennent le temps et puis. Ouais.
Et comme ils ont essayé de me mettre dehors, ils ont pas pu. Donc ils essaient en fait d'éliminer.
Ouais, c'est. Et toi, peut-être te mettre aussi en faiblesse en disant c'est peut-être de ta faute si on s'attaque à tes collègues, quoi. C'est un peu une.
Ouais, c'est
une tactique pour diviser un peu à l'intérieur. Mais après, tu vois comment ça se passe au niveau de l'équipe.
Au niveau de l'équipe, c'est pareil, diviser pour mieux, ouais, voilà, en fait, ouais, pour mieux régner. C'est-à-dire il y a une équipe qui sont pro direction.
Ouais, forcément, ouais. Pas
donc,
forcément.
Ouais, qui sont pro direction. Il y en a d'autres en fait qui grognent, mais en silence.
Je n'ose pas trop dire parce qu'ils savent que si jamais ils, ouais, trop, ça va se faire comme pour.
Déjà lui. Aujourd'hui, j'en ai des salariés là.
Ouais, qui sont là, j'ai vu, ouais.
Qui m'ont dit que le franchisé a envoyé un message comme quoi c'est lui qui va sortir là.
Ouais.
Ils vont s'occuper d'eux après.
D'accord.
Pour, ouais, en fait.
Forcément. Donc un gros harcèlement, une, ouais, grosse pression sur les, ouais, sur les autres salariés.
Donc il est en train de restructurer en fait les restaurants.
Ouais,
éliminer en fait les anciens pour
récupérer, ouais, tout ce qu'il veut, ouais, voilà, en termes de gestion.
Ouais. Et lui, ce qu'il dit, écoutez mes chers amis, moi j'ai de l'argent. Quand j'ai pas envie de voir une tête au sein de l'entreprise, je le mets dehors parce que moi,
ouais,
j'ai le pouvoir.
Ouais,
il y a la différence entre le pouvoir et le droit. Le droit s'appliquera après.
D'accord.
Mais en attendant, j'ai use
mon pouvoir de chef.
Donc qu'est-ce qu'il fait? Un salarié qui est viré, il ne va pas embaucher tout de suite. Il va économiser le salaire de la personne,
ouais,
virée parce que le procès dure un an et demi.
Le
temps que le procès ça dure, il accumule le salaire et il lui verse en fait.
D'accord. Ok.
Voilà.
Et ça fait longtemps que par exemple, la section. Il n'y a plus la CGT là du coup sur ce McDo,
ouais,
comme indiqué.
Ouais, il y avait FO.
Ouais.
Mais FO, c'était le directeur en fait.
D'accord.
Et lui, il lui a dit, bon, je te donne l'argent, tu quittes l'entreprise, ou sinon je te pourris la vie.
D'accord.
Et lui, il a pris l'argent, il est parti.
Et ça fait longtemps qu'elle existe, la CGT, ici, ou ça fait,
ouais,
c'est assez récent
Ça fait presque 4 ans.
Presque 4 ans, d'accord. Justement, ça ne va pas faire non plus, quoi, forcément.
Ouais. Donc, on était nombreux ici.
Ouais.
La CGT, on était à peu près une quinzaine, mais il les a tous liquidés.
Petit à petit, pour les virer, d'accord.
Et là, il en a à peu près une dizaine de procès à l'état actuel pour des salariés.
Et donc, du coup, la réponse pour ton collègue, là, c'est cet après-midi, c'est ça?
Oui, c'est ce soir,
c'est
à 18h30.
Ok.
Donc, là, je vais l'assister.
Ouais. Oui, en tant que délégué syndical,
bien entendu, ouais. Donc, on sait que le licenciement, il est déjà acté.
Ouais.
Donc, il ne va pas revenir en arrière.
D'accord.
Mais c'est juste pour lui montrer que, bon, voilà.
Il y a un rapport de force.
Il y a un rapport de force, ouais. Donc, ça ne s'arrête pas là. Là, c'est sûr que, bon, voilà, on va essayer aussi de mobiliser aussi, ouais, de faire d'autres mouvements.
Donc, et ils vont trouver quel motif pour le licencier?
Le motif, c'est qu'une faute disciplinaire.
Quelque chose, c'est ça. Pour lui, ils vont trouver des fautes. Ouais,
parce qu'avant, ils utilisaient, en fait, la sécurité alimentaire.
D'accord.
Mais maintenant, ils ont su que, bon, voilà, moi, je l'ai menacé à plusieurs reprises, que moi, je suis à l'intérieur du resto. Je vois les déboires, en fait, les déboires à l'intérieur. Si vous dites que c'est la sécurité alimentaire, moi, je peux témoigner, dire le contraire.
Ouais.
Donc, maintenant, ils ont abandonné le truc. Ils ont essayé pour le harcèlement sexuel.
D'accord.
Donc, tout ce qui, et ça n'a pas marché possible, parce que je fais venir l'inspection du travail.
Ouais.
Et en plus, c'était deux femmes qui sont venues enquêter.
D'accord.
Ils ont enquêté les salariés, ils ont dit, ben, parce que c'est ce qu'ils ont utilisé comme motif pour me virer.
D'accord, ok.
Ils m'ont soupçonné de harcèlement sexuel. Les inspectrices se sont débarquées ici. Ils se sont rendus compte que c'était une machination.
Ouais.
Donc j'étais innocenté.
D'accord.
Ils ont fait un recours hiérarchique auprès du ministre.
Ouais.
Les enquêtes ont été réalisées. J'étais innocenté. Maintenant, ils sont au tribunal administratif.
Il faut essayer encore casser ça.
Ouais. Ce qui fait que maintenant, la méthode, ils n'arrivent pas en fait à aboutir.
Ils n'arrivent pas jusqu'au bout du truc.
Ouais, jusqu'au bout. Parce qu'ils perdent tout le temps au prud'homme.
Au prud'homme aussi. D'accord.
Maintenant, ils ont essayé en fait, bon, d'économiser l'argent et de dire que c'est une faute, c'est une cause réelle et sérieuse.
D'accord, ok. Ça marche.
Hein? Vous voyez qu'il continue toujours.
Bonjour.
Bonjour.
Je peux vous poser des questions
avec
pour
plaisir.
Radio Canet?
Bien, on va se mettre
ici.
Aujourd'hui,
on est là pour soutenir en fait un manager à l'intérieur. Si vous dites que c'est la sécurité alimentaire, moi je peux témoigner, dire le contraire.
Ouais.
Donc maintenant, ils ont abandonné le
truc.
Ils ont essayé pour le harcèlement sexuel.
D'accord.
Donc, tout ce et ça n'a pas marché possible. Parce que je fais venir l'inspection du travail.
Ouais.
Et en plus, c'était deux femmes qui sont venues enquêter.
D'accord.
Ils ont enquêté les salariés, ils ont dit, ben, parce que c'est ce qu'ils ont utilisé comme motif pour me virer.
D'accord, ok.
Ils m'ont soupçonné de harcèlement sexuel. Les inspectrices se sont débarquées ici. Ils se sont rendus compte que c'était une machination.
Ouais.
Donc j'étais innocenté.
D'accord.
Ils ont fait un recours hiérarchique auprès du ministre.
Ouais.
Les enquêtes ont été réalisées. J'étais innocenté. Maintenant, ils sont au tribunal administratif.
Il faut essayer encore casser ça. D'accord.
Ouais. Ce qui fait que maintenant, la méthode, ils n'arrivent pas en fait à aboutir.
Ils n'arrivent pas jusqu'au bout du truc.
Ouais, jusqu'au bout. Parce qu'ils perdent tout le temps au prud'homme.
Au prud'homme aussi. D'accord.
Maintenant, ils ont essayé en fait, bon, d'économiser l'argent et de dire que c'est une faute, c'est une cause réelle et sérieuse.
D'accord, ok. Ça marche.
Hein? Vous voyez qu'il continue toujours à travailler.
Ouais, ouais, ça, j'ai vu, ouais.
Hein? Si c'était vraiment une faute grave.
Mais oui, mais il n'y a pas eu. Voilà.
Voilà. Donc voilà, mais là, il y en a des managers aussi qui sont suivis. Ils ont commencé à les mettre de la pression.
Ok, ok.
Pour qu'ils démissionnent. Il y avait un directeur récemment. Ils ont dit soit tu démissionnes, soit on te pourrit la vie.
Vive McDo, quoi.
Vive McDo. Et là, on continue à donner de l'argent parce que ce qui est bizarre, l'impôt, comment ça s'appelle, CICE, là. Le truc là de M. Hollande, là. Impôt compétitivité, ça.
Ouais.
Il lui a filé de l'argent.
Ouais.
À peu près 200 000 euros. Et ces 200 000 euros, il ne va pas les utiliser. Il va les encaisser pour liquider les salariés. On donne l'argent à McDo pour licencier les salariés. Hein?
Oui, alors désolé pour le petit micmac qu'il y a eu entre les reportages.
Il y a Big Mac.
C'était pour être sûr de vous les passer dans le board, mais maintenant vous allez réellement entendre un reportage de 9 minutes 27 sur les luttes qu'il y a eu pour les prostituées mercredi dernier. C'est parti. Non, peut-être. Sûrement. Oui.
Je peux vous poser des questions
avec
pour
plaisir.
Radio Canet?
Bien, on va se mettre.
Ici? Ouais, on peut commencer. Pourquoi il y a ce rassemblement aujourd'hui?
Alors, donc, moi, je suis Christine, membre du Stras Lyon, et je suis aussi la représentante du NSWP pour l'Europe de l'Ouest. En gros, c'est le syndicat des putes à l'international.
D'accord.
Et nous, on note que depuis toutes les lois de pénalisation des clients en France, il y a une recrudescence des agressions contre les travailleuses du sexe.
De ça, en France?
Ouais.
Et c'est de quand cette loi? C'est quoi cette loi?
Eh bien, depuis qu'on en parle, tu vois.
Ouais.
On a commencé à étudier cette loi qui est toujours, attention...
Depuis qu'il y a un débat...
Voilà, qui est toujours dans les tuyaux au Sénat. Et on note, nous, qu'il y a une recrudescence des agressions sur les travailleuses du sexe. Et donc aujourd'hui, c'est la journée internationale contre les violences faites aux travailleuses du siècle, du sexe. Ah.
Que ce soit, du siècle.
Que ce soit les violences policières, tu vois, là, on a un membre du Stras qui s'est fait agresser hier, avant-hier par la police, alors qu'il faisait une tournée pour distribuer des capotes, qui mobilisait les filles pour venir. Il D'accord. s'est fait monoter, fouiller, traiter de PD, etc.
Par la police.
Ah bah, par la police.
Par la police.
Ah, non.
Ouais. D'accord. Okay.
Bah, du coup, moi, j'ai l'impression que ça relève aussi de toute la logique qu'il y a derrière cette loi qui du coup cible les prostituées et développe tout un discours qui va autour, qui les stigmatise vachement, qui dit qu'elles sont trop faibles pour prendre leurs propres décisions, que enfin bon, ça s'organise aussi avec tous les discours sur l'immigration où du coup c'est des personnes illégales qui sont victimes de la traite des êtres humains et compagnie. Donc bon, du coup
c'est des cibles désignées. On dessine des cibles sur les dos des putes. Moi, la dernière fois que je me suis fait agresser, le mec il m'a dit, de toute façon c'est illégal ce que tu fais.
D'accord.
Je dis non.
Plusieurs fois ça vous est arrivé?
Ah bah ouais.
C'est quelque chose. C'est un passage obligé quand
Non, parce que comme ils savent que les filles, la police ne prennent pas les plaintes.
Ouais.
T'as envie d'agresser un homme qui a envie d'agresser une femme, qu'est-ce qu'il fait? Et ben.
C'est une cible très facile.
Voilà.
D'autant plus que les prostituées se retrouvent à aller en périphérie des grandes villes.
Moi, je t'avoue, quand je rentre maintenant les filles, quand je vais à la campagne, je vois des camionnettes sur des petites routes de campagne, les filles, elles dorment dedans, parce que des fois, elles n'ont pas le permis, donc elles ne peuvent pas rentrer sur Lyon. Je me dis, mais...
C'est même plus la périphérie des grandes villes.
C'est
rural.
Pour dire, c'est vraiment là. Je me dis, un jour ou l'autre, il y en a. Tu vois, même si c'est pas une agression sexuelle, ça sera une agression pour lui piquer son fric, parce que c'est évident que son argent, elle l'aura sur elle. Tu vois, moi je pense que c'est pour ça qu'on manifeste aujourd'hui, pour vraiment dire, nous on voudrait des possibilités, tu vois, d'exercer notre travail, des lieux pour travailler.
Donc réouverture de maisons closes par exemple?
Non, nous en tant que syndicat, on est contre d'avoir un patron.
Oui.
Donc on est contre le modèle espagnol avec, tu sais, les immenses bordels. On est contre même le modèle suisse ou belge où tu as une mère maquerelle qui te dit comment tu dois t'habiller, les clients que tu dois faire. Nous, ce qu'on aimerait en fait, c'est pouvoir travailler à plusieurs dans un appartement, comme en Nouvelle-Zélande.
En collectif?
Voilà, ouais. En collectif.
D'accord. Une sorte de maison close autogérée,
un bordel autogéré,
voilà,
on préfère.
Un bordel autogéré.
Voilà, on n'a pas le droit de travailler ensemble. Et donc, nous, on aimerait pouvoir travailler ensemble. Tu vois, on n'a même pas le droit d'embaucher, mettons, un mec pour faire une personne pour faire la sécurité.
Mmh. Oui, c'est pas légiféré, c'est pas encadré.
C'est du proxénétisme. Ouais. La personne se fera agresser, se fera arrêter pour proxénétisme. Non, nous, on aimerait la possibilité de louer des locaux commerciaux. T'as vu tous ces bureaux, ces mètres de bureaux qui sont vides, tous ces pas de porte qui sont vides. On aimerait pouvoir louer des boutiques et puis.
Pour plus de sécurité, de meilleures conditions de travail.
Voilà.
De travail en
fait. Et bon, ce qu'on aimerait aussi, c'est comme dans d'autres villes, que le maire de Lyon, M. Gérard Collomb, nous accorde aux filles qui bossent en camionnette un terrain, des emplacements, tu vois, pour qu'elles puissent bosser.
Et donc sa position là-dessus, c'est quoi? La politique qu'il a depuis qu'il est arrivé...
C'est la gentrification de la ville. Cacher les putes, les mendiants...
Depuis qu'il est arrivé, les prostituées sont retrouvées d'autant plus en périphérie, dans des conditions de précarité, finalement, c'est ça.
Il prend des arrêtés. Là, avec le Stras, hier, on était encore au tribunal pour contester son dernier arrêté. Donc, petit à petit, il rajoute des rues.
Des arrêtés ou d'interdiction de prostitution?
De stationner. De circuler, qui vise uniquement les putes, tu vois.
Parce qu'ils ne peuvent pas interdire l'activité parce que c'est pas illégal. Ouais. Donc du coup, il y a plein de petits arrangements qui font en général dans les villes. Là, par exemple, à Toulouse, c'est très très fort. Ils ont fermé plein de rues, ils ont interdit plein de rues. Et du coup, ça cause à chaque fois beaucoup de problèmes avec du coup les filles qui bossent, qui doivent bouger, trouver des nouveaux endroits et du coup se réimplanter dans des nouveaux endroits, donc les riverains qui gueulent. Enfin,
c'est le problème de la concentration. C'est quand tu peux te disséminer, ça va. Mais les gens, ce qui les fait râler, c'est qu'effectivement, toutes les filles soient concentrées.
Ouais,
et comment elles font? Aujourd'hui, sur Lyon, tu peux te mettre nulle part. Donc le maire de Lyon a commencé par dire « On ne veut plus voir les filles dans la rue à pied. » prenez des camionnettes. Les filles, qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles ont pris des camionnettes. Et maintenant, t'imagines...
Ça, le changement, c'était quand? C'était il y a une dizaine d'années, non?
Colomb. Qu'est-ce que tu dirais, hein, toi?
Un peu moins.
Celui qui veut faire de Lyon une ville plus de pique dans les rues.
Je vois bien sa politique. Hein.
Il veut plus... Alors, c'est des PV à répétition pour camping sauvage, pour stationnement...
Du harcèlement.
Du harcèlement policier. Ouais.
D'accord.
Et donc, nous, ce qu'on demanderait, tu vois, au moins qu'ils nous disent où les filles peuvent travailler.
Le premier temps de stopper la
progression. Donne-nous un endroit où travailler. Ouais. Tu vois, tu peux pas, les filles, t'as beau, elles ont besoin, en plus, maintenant, avec tous les PV qu'elles prennent, elles sont obligées de bosser pour payer leurs PV. Donc, c'est vraiment...
La précarité, comme dans plein d'autres.
Ah ouais, non, c'est vraiment la précarité. Hein.
Dans plein d'autres boulots. D'accord. Yep. Bah, moi, je vais aller prendre un petit verre de vin chaud.
Bien que ces vaches de bourgeois, bien que ces vaches de bourgeois, les appels des filles de joie, les appels des filles de joie, c'est pas tous les jours qu'elles rigolent, parole, parole, c'est pas tous les jours qu'elles rigolent. Car même avec des pieds de grue, car même avec des pieds de grue, faire les 100 pas le long des rues, faire les 100 pas le long des rues, c'est fatigant pour les guiboles, parole, parole, c'est fatigant pour les guiboles. Non seulement elles ont des corps, non seulement elles ont des corps, des œils de perdrix, mais encore, des œils de perdrix, mais encore, c'est fou ce qu'elles usent de grolles, paroles, paroles, c'est fou ce qu'elles usent de grolles. Il y a des clients, il y a des salauds, il y a des clients, il y a des salauds qui se trempent jamais dans l'eau, qui se trempent jamais dans l'eau. Faut pourtant qu'elle les cajole, parole, parole, faut pourtant qu'elle les cajole. Qu'elle leur fasse la courte échelle, qu'elle leur fasse la courte échelle, pour monter au septième ciel, pour monter au septième ciel. Les sous, croyez pas qu'elle les vole, parole, parole, les sous, croyez pas qu'elle les vole. Elles sont méprisées du public, elles sont méprisées du public, elles sont bousculées par les flics, elles sont bousculées par les flics, et menacées de la vérole, parole, parole, et menacées de la vérole. Bien toute la vie, elle fasse l'amour, bien toute la vie, elle fasse l'amour, qu'elle se marie 20 fois par jour, qu'elle se marie 20 fois par jour, la noce est jamais pour leur fiole, parole, parole, la noce est jamais pour leur fiole. Fils de Pécor et de Minus, fils de Pécor et de Minus, ris pas de la pauvre Vénus, ris pas de la pauvre Vénus, la pauvre vieille casserole, parole, parole, la pauvre vieille casserole. Il s'en fallait de peu, mon cher, il s'en fallait de peu, mon cher, que cette putain ne fût amère, que cette putain ne fût amère, cette putain dont tu rigoles, parole.
Et alors, après ce reportage sur la lutte des prostituées, on va repartir, on va partir juste. Oh là là, je suis désolée, je suis fatiguée. On va partir pour la fac de Lyon 2. Et l'année dernière, il y a des syndicalistes qui se sont fait arrêter et condamner par la justice pour avoir envahi un CA, un comité d'administration à la faculté Lyon 2. Et ils ont été aussi jugés par la faculté Lyon 2 pour savoir s'ils allaient ou non pouvoir continuer à être étudiants. Et donc, petit reportage de 5 minutes sur leur jugement qui a eu lieu hier après-midi.
Alors aujourd'hui, alors à l'heure actuelle là, on est sur le rassemblement justement qui est fait juste avant la commission disciplinaire, c'est-à-dire le résultat définitif de cette commission disciplinaire. Donc, faut savoir que c'est un choix aussi de la fac hein, qui fait traîner cette affaire, qui essaie de nous enfermer dans la lutte anti-répression. Donc nous, ça marche pas parce que très concrètement, on diversifie nos fronts de lutte et on continuera à lutter quel que soit le résultat.
Alors du coup, on se rassemble parce que on est donc deux syndicalistes étudiants, donc de FSE Solidaires étudiants, à passer en commission disciplinaire. On est convoqué par la présidente. Suite à novembre 2013 où enfin dans le cadre de la lutte étudiante contre la restriction budgétaire et la loi Fioraso, voilà, il y avait un envahissement décidé d'un conseil de la présidence, suite à quoi le président a fait intervenir les flics sur le campus, voilà, pour faire évacuer les locaux. Donc on était trois à être passés en procès en juin dernier. On est deux donc à cette fête condamnée. Donc Myriam qui était secrétaire de section syndicale et moi qui était élu étudiant à l'époque. Donc on a pris 3 et 6 mois de prison avec sursis et plus de 4000 euros de dommages et intérêts pour les agents de sécurité incendie de la fac et pour deux agents de la BAC. Voilà, et puis maintenant la présidence elle nous convoque en commission disciplinaire. Et voilà ce qu'ils essayent de faire, c'est nous exclure de la fac, quoi. Ils veulent essayer de se débarrasser des syndicalistes qui les gênent, quoi.
Vous avez une sorte de double peine, vous avez été condamné par la justice et là vous pouvez être condamné par la fac.
Ouais, voilà, bah ouais, tout à fait. En gros, là ils peuvent prendre des sanctions allant jusqu'à 5 ans d'exclusion de tout établissement d'enseignement supérieur. Voilà, et il y a un truc qui est assez intéressant à citer quand même, c'est que il y a un type qui va siéger là, qui sera membre du jury, c'est Norbert Landon, c'est un membre de la présidence, c'est le type qui à l'époque portait plainte, il a instruit l'affaire donc en octobre quand on était convoqué pour être auditionné par la commission d'instruction, et aujourd'hui il va juger, quoi. Donc on voit, il s'embarrasse pas d'un vernis démocratique pour essayer de nous dégager, quoi. Ils le font clairement, quoi.
Vous êtes accusé de quoi exactement ?
Alors, on est accusé de trouble à l'ordre et entrave au fonctionnement institutionnel de l'établissement. Voilà, et donc du coup, donc pour eux, ils reprennent en fait le dossier et ils nous accusent de violence envers les agents de sécurité incendie. Donc là, on a un bon dossier qui montre que, bah, tout simplement, en fait, enfin, ce qu'ils nous imputent, voilà, c'est pas constatable objectivement. Par ailleurs, voilà, nous, on a toujours dit, c'est pas notre combat que de frapper du personnel de sécurité incendie. Par ailleurs, ils sont embauchés par la fac, la plupart, c'est des précaires.
On s'en défend, on a toujours nié avoir porté des coups à ces vigiles, on le nie toujours et on conteste bien entendu le jugement qui a été fait, mais qui est dans le rendu et le reflet d'une politique générale et d'une certaine vision de la justice qu'on ne partage pas et qu'on combat.
Tu peux nous expliquer les résultats de la commission disciplinaire et qu'est-ce qui s'est passé ?
Alors, ce qui s'est passé, c'est que il y a quatre élus étudiants et quatre élus enseignants qui ont statué sur la situation des deux camarades de sud étudiants. Et ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont été condamnés à 2 ans d'exclusion de tout établissement universitaire, dont 18 mois avec sursis. Du coup, ça fait 6 mois d'exclusion ferme. L'argument qui a été sorti par un des profs qui siégeait, c'était que si la commission les relaxait et ne prononçait pas de peine ferme, le président de l'Université Lyon 2, Jean-Luc Maillot, allait faire appel de cette décision au CNESER et que ces deux camarades risquaient de prendre une peine encore plus lourde au CNESER, et du coup, il valait mieux leur mettre une petite sanction entre guillemets de ferme maintenant pour leur éviter qu'ils aient une peine encore plus lourde au CNESER. En revanche, cet argument il semble fallacieux, et même les camarades de sud étudiants le reconnaissaient, parce que quitte à ce que ça aille au CNESER, et ben que ça aille au CNESER, on le contestera à ce moment-là, mais c'est pas un argument de dire ils risquent de prendre plus après, du coup autant leur mettre 6 mois ferme maintenant.
C'est quoi le CNESER ?
Le CNESER, c'est une instance disciplinaire aussi, mais au niveau national. Du coup, au niveau local, on a les conseils disciplinaires qui ont lieu au rectorat. Et s'il y a appel, eh ben, ça monte au niveau supérieur, au niveau national, au CNESER, du coup, qui est l'instance nationale de discipline de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Et concrètement, du coup, qu'est-ce qui va se passer pour les deux camarades qui ont été suspendus ?
Eh ben, d'ici 3 ou 4 semaines, ils vont recevoir une lettre de notification qui officialise la décision du conseil disciplinaire. Et à partir de ce moment-là, pendant 6 mois, ils seront exclus de l'établissement Lyon 2. Et de tout établissement universitaire.
Tu peux voter, pétitionner, débattre à la télé ou gamberger sans te bouger, mais... Un but.
Et après cette superbe chanson de Jolie Môme, qui est vachement bien,
on va aller.
Il se trouve qu'on vous avait parlé il y a 15 jours du procès de Pinard Select qui avait été reporté. Il était aujourd'hui, et surprise, il y a une chouette surprise pour une fois après le procès des syndicalistes où ça s'est mal passé, c'est que Pinard Select a été acquitté.
Ouais. Donc, putain, elle a spoilé le reportage.
Il paraît qu'il y avait
mais vous
champagne.
Allez avoir une surprise de la chorale. Souvenez-vous du reportage que vous avez entendu il y a un mois. Ils sont de retour.
C'est quoi
Eh bien, depuis qu'on.
Je remercie vivement au comité de solidarité qui s'est mis en place à Lyon depuis que je suis là, depuis 4 mois, et qui m'ont mis dans une position de ne pas demandeuse des choses parce que qui ont organisé toutes les choses sans me demander et sans me mettre dans une position de leur demander et qui ont partagé depuis le matin mon ennui de l'attente et je remercie à tous les amis, premièrement les féministes et les militants LGBT, mes collègues à l'université et les militants des droits humains, pas droits de l'homme mais droits humains et les militants de non-violence et toutes les personnes qui sont là ensemble avec. Et alors jusqu'à ce temps-là, depuis je crois quelques années, on écrivait des communiqués de presse, on disait après 3 acquittements on veut quelque chose, mais peut-être dans quelques semaines on va écrire des nouveaux communiqués en disant après 4 acquittements. Parce que maintenant, on attend le procureur qui peut peut-être faire une appel. Alors, moi, je suis habituée aux acquittements. Ce n'est pas la première chose que je dis. Je suis acquittée toujours. Seulement, l'année dernière, j'étais condamnée. Mais c'était une fois. Et alors, si le procureur fait l'appel dans 2 semaines, ma soeur, qui est mon avocate aussi, a dit 2 semaines. Les autres avocats, ils ont dit 1 mois, on ne sait pas. Mais dans 2 semaines ou 1 mois, si le procureur fait l'appel, alors ça va être la cour de cassation. Ils peuvent casser le verdict, ils peuvent casser l'acquittement. Et la campagne peut continuer. Vous serez avec moi encore?
Oui, on ne sait pas.
On ne sait pas, d'accord. Moi non plus, je ne sais pas. Peut-être que je vais partir de France. Mais je ne sais pas. Je crois que j'étais tendue aujourd'hui. Mais maintenant, mes amis, les Français, les Allemands, les Italiens, les Turcs, les Arméniens, les Kurdes, tout le monde font une fête à Istanbul. Font une grande fête. Parce qu'aujourd'hui, ils nous ont donné le grand stade de 300 personnes, mais on était trop nombreux, mes amis, et ils n'ont pas plus que la moitié n'ont pas pu entrer à la salle. 400 étaient dehors, 300 étaient dedans. Maintenant, je suis contente et je veux oublier tout ce qu'il peut faire après. Ce soir, on a fêté ensemble à la rue de Marseille dans une kebab kurde qui va nous offrir des choses végétaliennes aussi. Alors, on va faire une fête là-bas. Mais peut-être après 2 jours, 3 jours, on doit se préparer.
Bien que ces salauds de fachos, bien que ces salauds de fachos, voudraient la jeter au cachot, voudraient la jeter au cachot. Nous, on veut qu'elle reste libre de vivre, de vivre. Nous, on veut qu'elle reste libre. Pour crier non à l'injustice, pour crier non à l'injustice, l'État les juge et leurs complices, l'État les juge et leurs complices, ce sont eux les vrais terroristes, c'est triste, c'est triste, ce sont eux les vrais terroristes. Heureusement ils t'ont acquitté, heureusement ils t'ont acquitté, grâce à la solidarité, grâce à la solidarité, de Strasbourg, de Paris ou de Lyon, union, union. Contre toutes les oppressions. Mais il ne faut pas oublier, mais il ne faut pas oublier qu'il y a bien d'autres prisonniers, qu'il y a bien d'autres prisonniers, et c'est pour eux qu'on résiste, résiste, résiste contre toutes les injustices.
Et voilà, c'était un reportage sur le procès de Pilar Sélec avec une chanson du coup de la chorale de l'Atelier des Canulars
qui a écrit dès l'annonce de l'acquittement de Pilar Sélec.
Et on ne s'en moque pas de la chorale, il vient juste d'y avoir un accident au studio où un reporter vient de se prendre le plafond parce qu'il sautait trop haut de joie. Alors, ce qui provoque chez la reporter qu'il devait parler juste après une crise de fou rire. Et non, ce n'est pas un cochon qu'on égorge que vous entendez à l'antenne parce que c'est une radio vegan, Radio Canu. Et attention, elle va se ressaisir, elle respire bien profond. Et maintenant, on va tout partir à Amazon.
Chez Amazon.
Thierry Roland sort de ce corps.
Voilà, joyeux Noël à tout le monde. Du coup, à la veille de Noël, Amazon, donc le géant de la vente sur Internet, voit le nombre des commandes exploser. Certains produits sont disponibles en 24 heures. Et donc, pour satisfaire ces magnifiques acheteurs... Pardon. Le groupe américain a installé, du coup, plusieurs entrepôts en France... Et donc pour répondre à la forte demande, l'entreprise américaine a recruté beaucoup d'intérimaires. Et donc pour savoir à peu près, parce qu'on se rend pas forcément compte quand on commande sur Internet, mais pour que les produits arrivent en temps et en heure du coup dans vos boîtes aux lettres, les produits doivent rester en moyenne moins de 2 heures dans les entrepôts. Du coup, il y a des journalistes curieux qui ont voulu visiter les entrepôts et voir un peu comment est-ce que ça se passait là-bas. Donc devant les caméras, les journalistes qui étaient strictement encadrés par les attachés presse d'Amazon, tout semblait à peu près cool. Il y a même le patron qui check tous ses employés pour leur dire bonjour. On peut voir aussi une magnifique séance le matin où avant de prendre leur service, les employés doivent faire une séance d'étirement collectif avec de la musique super beauf. Donc voilà, donc vive l'esprit de famille.
Putain, ils nous ont tout piqué à Amazon quoi.
Tout à fait. Et donc, merci. Et du coup, en gros, le travail de ces personnes, c'est dans des gigantesques hangars. Les employés, à l'aide d'un pistolet scanner, doivent aller à la course aux produits pour préparer les commandes. Et chaque salarié doit récupérer un maximum d'articles à un temps minimum de temps, un peu comme dans un jeu vidéo, quoi. Et la direction assure, devant les caméras, qu'il n'y a pas de sanctions s'ils ne respectent pas cette cadence. Mais, puisque les journalistes sont hyper intelligents, ils ont mis une caméra cachée et ils ont fait une infiltration en se faisant embaucher en tant qu'intérimaire. Et alors là, l'envers du décor est vachement moins coloré. Sous le contrôle étroit de leurs responsables, les employés doivent suivre un rythme infernal pour répondre aux objectifs. Les scanners qu'ils utilisent servent aussi à mesurer leur productivité, à fixer des objectifs très précis et à surveiller du coup leurs moindres faits et gestes. Et du coup, pour ceux qui n'atteignent pas leur mission, qui n'atteignent pas leur quota, leur mission est interrompue. Donc les journalistes constatent qu'il y a un flicage permanent de l'entreprise. Une partie du temps de pause des ouvriers, d'ailleurs, est grignotée sans scrupule. Et du coup, il y a vraiment une existence de quota de productivité. Donc voilà les conditions de travail de certaines personnes pour répondre aux exigences des autres pour les cadeaux de Noël. Voilà, donc joyeux Noël à tous et puis prenez vos pieds et arrêtez d'acheter sur Internet.
Et oui, sans transition, alors au niveau national aussi, il y a eu ce mercredi la proposition de loi de Nathalie Bouchard qui visait à faciliter l'expulsion des squatteurs. Du coup, c'est une victoire pour la sénatrice maire UMP, la maire de Calais, même si sa proposition doit encore recevoir l'approbation de l'Assemblée nationale. Voilà, en fait, Nathalie Bouchard, en octobre 2013, elle crée la polémique pour inciter les Calaisiens à dénoncer les squats. Et du coup, en fait, elle voulait aussi rallonger le délai de flagrant délit, de passer de 48 heures à 96 heures.
Ce qui permet à la police d'intervenir et de vider le squat pendant un temps plus long, c'est ça, hein?
Voilà, c'est ça en fait. Du coup, le 3 décembre, la proposition elle a été examinée par la commission des lois. Et du coup, la commission a modifié la formulation d'un article du code pénal donc pour permettre aux forces de l'ordre d'intervenir au titre de flagrant délit tout au long du maintien dans les lieux. Donc, quelle que soit la durée, grosso modo, ça veut juste dire que l'expulsion est possible à tout moment, quoi. Voilà, donc la proposition de loi a été votée mercredi par le Sénat, et du coup on attend de voir si elle va être confirmée ou pas à l'Assemblée nationale.
Ça pue. Et maintenant...
Ah ouais, on passe à la rubrique internationale.
Alors, on va en Australie.
Ouh, en Australie, et oui.
Attachez vos ceintures.
On va parler un peu de la politique d'immigration du gouvernement australien. Alors, on en avait déjà parlé lors du Canu Info du 24 octobre, que vous pouvez réécouter sur le site de Canu Info, lorsque le gouvernement australien avait mis en place une campagne publicitaire raciste et violent, on me fait des signes comme quoi, effectivement, c'est bientôt fini, le canon fou, je me dépêche. Raciste et violemment anti-immigration en diffusant des affiches, des bandes dessinées, des spots publicitaires afin de dissuader donc les réfugiés de venir s'installer sous le soleil chaud de l'Australie.
Mais attendez, excusez-moi, mais pourquoi tant de haine?
Et oui, voilà, parce que alors les Australiens sont peut-être pas si méchants que ça. Mais en tout cas, cette campagne là s'inscrivait s'inscrit toujours dans le cadre de l'opération militaire Sovereign Borders, qui veut dire
frontière souveraine.
Voilà.
Quel accent.
Qui est en place depuis septembre 2013. Donc c'est une opération militaire qui a pour objectif de stopper les bateaux qui cherchent à rejoindre l'Australie illégalement. Et selon le gouvernement australien, ceci afin de préserver l'intégrité du programme d'immigration de l'Australie.
Excusez-moi, mais qu'est-ce le programme d'immigration de l'Australie ?
Eh ben, c'est facile, c'est enfermer des gens dans des centres de rétention sans durée limite de détention. Et de les rembarquer vite fait, bien fait, vers des états tiers comme la Papouasie-Nouvelle-Guinée ou Nauru, qui sont des îles à côté. Et lorsque des personnes arrivent quand même à obtenir le statut de réfugié, donc dans ce cas-là, l'Australie a obligation de les accepter, le gouvernement australien va jusqu'à dédommager les états tiers, donc par exemple la Papouasie-Nouvelle-Guinée ou Nauru, pour qu'ils gardent les réfugiés dans leur camp. Par exemple, en septembre dernier, ils ont passé un accord avec le Cambodge pour leur refiler les exilés qui ne veulent pas contre une aide au développement. Donc voilà, et donc alors ça c'est la situation actuelle, donc c'est déjà assez horrible, et là ils ont un peu surenchéri. Pourquoi ? Parce qu'ils veulent décourager cette fois, pour décourager les migrants, ils vont s'attaquer à l'immigration légale, parce que là ça concernait plutôt l'immigration clandestine.
Illégale.
Illégal. Et donc ils s'attaquent à l'immigration légale en réduisant le nombre de visas aux réfugiés reconnus par l'UNHCR,
l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés.
Voilà.
Le haut commissaire.
Donc aux réfugiés reconnus par l'UNHCR en attente en Indonésie.
Et d'ailleurs, pourquoi spécifiquement en Indonésie ?
Et oui, pourquoi ? Eh ben, en fait, parce qu'en Indonésie, l'Indonésie est un point de passage qui est assez important pour les personnes qui veulent rejoindre l'Australie légalement ou illégalement. Et du coup, Scott Morrison, ministre de l'immigration, veut que les migrants arrêtent de croire qu'aller en Indonésie leur permettra de s'installer en Australie. Il a donc annoncé, il y a un peu plus de 15 jours, qu'il ne prendra aucun réfugié arriver là-bas après le 1er juillet 2015. Mais quand même, l'Australie continuera à accueillir les réfugiés arrivés avant cette date à raison de 450 par an. Alors 450, c'est pas des masses. C'est surtout que quand on sait qu'il y a des dizaines de milliers de réfugiés qui sont coincés en Indonésie, parfois depuis pas mal d'années. Et donc à ce rythme-là, ça va prendre plusieurs décennies pour que les personnes qui sont arrivées avant le 1er juillet obtiennent leur visa permanent.
Mais ils viennent pas de remettre en place les visas temporaires pour permettre aux réfugiés de vivre dans cet accueillant et beau pays ?
Et oui, le visa temporaire, parce que effectivement, c'est bien beau de refuser tout le monde, mais voilà, des fois on a besoin un peu de main d'œuvre. Donc le gouvernement a promis d'accueillir 7500 réfugiés supplémentaires sur les 4 prochaines années si les visas de protection temporaire étaient rétablis. Alors les visas de protection temporaire, c'est quoi ? Alors les migrants sous visa de protection temporaire doivent prouver tous les 3 ans qu'ils sont toujours menacés dans leur pays d'origine. Si la situation a changé, donc en gros s'ils sont plus menacés, ils sont renvoyés là-bas. Et alors, cerise sur le gâteau, c'est s'ils acceptent sans broncher des boulots de merde, leur séjour sera prolongé 2 ans de plus. Et donc ça a été un truc qui a été proposé par le gouvernement. Et du coup, ça a été voté il y a exactement 15 jours, jour pour jour, par le Sénat en Australie.
Excusez-moi, mais pourquoi le Sénat a-t-il accepté de rétablir les visas temporaires ?
Eh ben oui, eh ben c'est un sale truc parce que le gouvernement a fait un chantage assez immonde au Sénat en promettant 7500 réfugiés donc de plus, donc ça c'est ce que je viens de dire tout à l'heure. Mais pire, ils ont promis la libération de 108 enfants qui sont enfermés au centre de rétention qui s'appelle Christmas Island. Ça s'invente pas quoi. Et en fait, ce chantage atroce, d'ailleurs, n'incluait pas les 167 enfants qui